Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Arthur Bromoreau autour de son livre « Le syndrome du patron de gauche » paru aux éditions Hors d'atteinte, le 26 janvier 2023, à la librairie Terra Nova.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et merci d'être venus malgré le froid. Merci à Arthur aussi de venir de Paris, ou de, ouais, de Paris. De région parisienne. Donc, nous présenter un livre qui est sorti en octobre aux éditions Hors d'atteinte, Le syndrome du patron de gauche, donc sous-titré Manuel d'anti-management. Voilà, donc on va le laisser présenter son travail, qui est un travail d'enquête et de réflexion qui part d'une expérience personnelle au départ, mais qu'il a élargi à tout un tas de gens qui travaillent dans les organisations de gauche ou apparentés, différents types de structures juridiques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Arthur et je vous souhaite une bonne soirée. Vous dire qu'il y aura une petite intervention de membres du syndicat ASSO, qui est une section de Solidaire, voilà, qui vous présenter leur travail et puis les actions à venir. Et puis vous pourrez échanger avec tout le monde à la fin. Merci. Bonne soirée.
Déjà, merci à vous, Terra Nova, de permettre de parler de ce sujet des patrons de gauche. Ce que je proposais pour la présentation, c'était de faire un petit moment où je présente moi le livre, quoi. Je sais pas à quel point vous avez vu un peu de quoi il parle, du coup peut-être revenir un peu déjà sur ce que je raconte dans ce livre et après revenir un peu sur pourquoi est-ce que j'ai fait ce livre, un peu la démarche, et après je vais essayer de faire ça un peu pas trop long pour qu'on puisse après échanger, parce que voilà, moi je suis de région parisienne et du coup c'est cool de pouvoir venir ici pour avoir aussi un peu savoir un peu ce qui se passe ici en termes dans ce sujet là et en plus, comme ça a été dit, ASSO Solidaire 31 qui est là ce soir, et vous allez nous parler de ce que vous faites et notamment une enquête. Enfin, je spoile pas, je vous laisserai le faire. Du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donc l'idée de ce livre, c'était de parler le syndrome du patron de gauche, donc, et pas tellement des patrons de gauche, au sens où ce qui m'intéressait, c'était pas de savoir ce qui se passe dans la tête des patrons de gauche, leur parcours, tout ça, mais plus en fait de voir les pratiques managériales de ces employeurs. Donc quand je dis pratiques managériales, c'est la façon dont ils et elles gèrent leurs salariés, et de voir ces pratiques du point de vue des salariés. Donc c'est pas interroger les patrons sur leurs pratiques, mais les salariés sur les pratiques de leurs patrons. Et donc là-dessus, donc je suis parti de ma propre expérience et après j'ai fait des entretiens autour de moi, et après ça a fait un peu boule de neige, ça s'est élargi au-dessus de mes propres cercles. Il y a eu une soixantaine d'entretiens de salariés, un peu d'employeurs et un peu de chercheuses. Donc l'idée de syndrome, c'était ça, c'est dans la médecine, syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Et donc là, l'idée, c'était de voir qu'il y a des comportements managériaux qui reviennent souvent et qui sont autant de symptômes du syndrome du patron de gauche. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée. Et ce qui me paraissait intéressant aussi dans l'idée de patron de gauche, qui est un terme que j'ai pas du tout inventé, on l'a déjà entendu, et moi je l'entendais au travail. C'est cette idée de voir justement cette tension qu'il y a entre le fait d'avoir une position d'employeur, patron, et en même temps une position militante engagée de gauche, et voir comment cette tension se concrétise dans les pratiques managériales, encore une fois, et comment est-ce qu'il peut y avoir des allers-retours entre les deux, entre patron et de gauche. Finir de dire un peu le cadre un peu de tout ça. Donc le secteur un peu ou le terrain, c'était en fait ce qu'une sociologue qui s'appelle Diane Rodet, sociologue à Lyon, appelle la production engagée. Et donc qui sont... comme j'ai le micro, je vais galérer à regarder mes pages. Ça prend un peu de temps. Mais voilà, elle parle de la production engagée comme le secteur des activités de production exprimant explicitement des positions militantes. Et donc c'est ça l'idée en fait derrière patron de gauche, c'est toutes ces organisations qui ont des positions militantes explicites. Et donc dedans il y a beaucoup d'associations qui rentrent, mais pas que. Il y a aussi des organisations de ce qu'on appelle l'ESS, Économie sociale et solidaire. Et aussi on oublie trop souvent les syndicats eux-mêmes, les partis eux-mêmes qui ont des salariés. Ça rentre aussi dedans. Il y avait aussi dans la distribution des médias ou des maisons d'édition. Donc voilà un peu le cadre de cette étude. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je savais pas trop. Je commence un peu les présentations, donc j'ai pas encore mon format rodé. Mais je me disais peut-être commencer par la fin. Je proposais un test un peu comme dans les tests dans les magazines qu'on lit à la plage, le test qui s'appelle « Mon employeur souffre-t-il du syndrome du patron de gauche ?» Vous pouvez remplir, vous verrez si vous avez déjà vu le livre. Où je reviens sur les quatre symptômes un peu clés qui pour moi traduisent donc le syndrome du patron de gauche. Donc je vais essayer de revenir un peu dessus, je vois si j'ai pas trop déjà parlé. Non, c'est bon, je suis dans les temps. De venir un peu sur ces cas symptômes pour que, qu'on puisse en parler après si vous avez envie. Pour moi, le premier symptôme du patron de gauche, c'est le déni du fait d'être un patron de gauche, le déni du fait d'être un patron. Et je parle du coup de management par l'évitement ou de management déguisé, où justement, en fait, les employeurs vont dire je suis pas patron, je suis pas employeur. Et ça a des conséquences directes pour les salariés, pour l'organisation en général. C'est que si le patron n'est pas patron, donc il n'a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité d'employeur. S'il n'est pas patron, il n'y a pas besoin de formation pour être patron. Il n'y a pas besoin non plus de réflexion critique sur la position de patron. À la place, il y a, je reviendrai après dessus, un mélange des genres où, si je ne suis pas patron, je suis ton camarade. Donc, il y a un mélange des genres avec le militantisme et le bénévolat. C'était un peu ce premier trait, moi, qui me semblait important et qui revenait dans mon expérience et dans les entretiens que je pouvais faire. C'était le déni même du fait d'être patron. Pour prendre un petit exemple, il y a le livre, c'est essentiellement des entretiens et autour les petites réflexions que j'ai pu faire. Pour prendre un exemple, il y avait donc ce travailleur dans deux associations, dans une association écologiste, Nathan. Je vous lis pour faire des petits moments lecture dans la présentation, je trouvais ça plus sympa. Lui, il explique. Au début, c'était génial, j'apprenais plein de choses, de l'économie, de la politique, de la sociologie. C'était mon premier job, mais je ne savais pas comment fonctionnaient les assos. J'ai vite découvert que le bureau était fantoche et que mon employeuse ne mettait en place aucune règle. Quand je suis arrivé, on ne m'a rien expliqué, ni sur la structure, ni sur mon poste. J'ai mis 6 mois à comprendre que mon boulot était un poste de chargé de campagne. Toutes ces choses mises bout à bout me font penser qu'il y a une espèce de je m'en foutisme. On avait atteint le paroxysme en matière de laisser aller. L'employeuse ne mettait aucune forme, aucun garde-fou dans les horaires de ses salariés. Elle était dans une ligne de management aux antipodes de ce qu'on promeut dans notre plaidoyer. Il n'y avait aucune considération pour le travail, aucun retour dessus. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, j'allais dire, mais oui, de un peu ce qui peut se passer dans un peu une conséquence concrète de Je suis patron de gauche, mais je ne m'assume pas comme tel. Et donc, je me déresponsabilise de mes responsabilités d'employeur, donc, qui vont être là, par exemple, limiter le temps de travail. C'est une des responsabilités de l'employeur. Et la conséquence directe, c'est que lorsque l'employeur se déresponsabilise, les responsabilités ne disparaissent pas. C'est aux salariés de le faire. Et donc, à une déresponsabilisation de l'employeur répond une surresponsabilisation des salariés. Et là, dans cet exemple-là, il explique pas qu'au bout de quelques mois, il a fini... voilà, il dit, à un moment, ton corps s'arrête avec des crises de fièvre la nuit, tu comprends que c'est un burn-out. Donc voilà, c'est un peu intense, mais c'était pour montrer voilà, les conséquences de... c'est pas simplement une timidité ou une pudeur à ne pas vouloir se dire patron, mais ça a des conséquences sur le travail des salariés. Le deuxième symptôme, pour continuer d'avancer, c'est ce que j'appelais en fait lorsque l'engagement arrive au service du management, donc un management par l'engagement. Et l'idée, c'était celle-ci, c'est que si la gestion des salariés ne se fait pas sur un mode classique employeur-salarié, sur quoi repose le management ? Est-ce qu'il suffit que l'employeur ne s'assume pas comme employeur pour que ce soit l'autogestion, l'horizontalité, la démocratie dans l'entreprise ? On voit bien que ce n'est pas le cas, ça demande beaucoup plus de choses, ça demande des moyens réels pour qu'il y ait de l'autogestion. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un vide de management ? Et donc au fil des entretiens, j'arrivais un peu à l'idée que le management n'aime pas le vide. Et si un patron ne s'assume pas comme employeur, d'autres éléments vont venir le remplacer. Et là, dans ce cas-là, ce qui va venir remplacer le management classique, c'est le management par l'engagement. Où justement, tout à l'heure on disait que ce sont des organisations de la production engagée, on voit en fait que les différents éléments de l'engagement de cette organisation vont être autant d'instruments pour gérer les salariés, c'est-à-dire vont être autant d'outils de management. Et là, j'avais encore une autre petite citation d'un salarié qui disait... mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut que je retrouve mes citations. Ah voilà, un salarié de la distribution alimentaire. En tant que patronne de gauche, mon employeuse a une vision de la société qu'elle essaye de reproduire dans son magasin. Ça m'avait plu. Pourtant, quand un collègue malade a demandé du temps pour un rendez-vous médical, elle s'est énervée. Tout le monde a des problèmes, comment je vais faire pour tourner mon magasin ? Son ressort, ce sur quoi elle compte, c'est notre motivation politique. C'est peut-être ça la différence avec un patron de droite ou classique. Lui, il sait que c'est l'argent qui compte, les bénéfices, etc. Il sait que pour le salarié, c'est pareil. Il y a une hypocrisie en moins. Pour le patron de gauche, tu ne travailles pas pour l'argent, mais pour des valeurs, pour des choix de société. Et ça lui permet de te manipuler. Donc voilà, donc dans cette citation où le salarié dit justement, chez un employeur de droite, ça serait beaucoup plus clair. Là, chez l'employeur de gauche, il y a cette idée de tu travailles pour des valeurs, pour un choix de société. Et c'est là-dessus, lui, il dit, ça lui permet de te manipuler. C'est une façon de le dire. Moi, je le présente comme c'est une façon de te manager, de te gérer. Et ce qui me semblait intéressant aussi, c'était de voir que ce mélange des genres entre... univers salarial et univers engagé, militant, bénévole, peut vite tourner au désastre en termes de conditions de travail. Et ce qui me semblait intéressant, c'était que on aurait pu penser à la base que le fait qu'on soit dans des secteurs engagés, ça pousse à avoir une réflexion critique sur le travail, à essayer d'améliorer, de baisser un peu le poids de la subordination dans le salariat, ou même imaginer des alternatives. Mais en fait, on voit que ce mélange des genres pousse à un nivellement par le bas, où il y a une utilisation dans le cadre salarial du dévouement, qu'on pourrait dire le dévouement un peu désintéressé qu'il y a dans le militantisme, pour justifier de moindres conditions de travail. Je ne sais pas là si je suis clair, mais pour prendre un autre exemple, il y avait un représentant syndical, un permanent syndical, qui parlait, lui, de martyrologie militante, où justement, dans le monde militant, il y a un peu cette idée de... il faut que tu te dévoues pour la cause, tu comptes pas tes heures, tu demandes rien, tu es là pour la cause. Et comment cette martyrologie, donc c'est son terme, militante, est utilisée dans le cadre du travail salarié. Je lis lui ce qu'il expliquait. C'est le discours du ni privilège ni discrimination, qui pousse à refuser toute avancée ou amélioration des conditions de travail aux salariés. Mais c'est aussi et surtout le culte de la suractivité du militant. Le fait de travailler tous les jours, le soir, le week-end, de ne pas compter. Et la distinction entre, ceux qui en croquent et ceux qui n'en croquent pas. J'ai déjà entendu dire « C'est bien d'avoir un grade de merde et d'en chier. Comme ça, les collègues ne te prennent pas pour un anti. Comme ça, t'es un vrai, t'en croques pas. » Finalement, avec ces discours, on se tire une balle dans le pied. Et c'est ça qui me semblait intéressant, c'était voilà. Tout à l'heure, on parlait des allers-retours possibles entre patron et de gauche, voir comment l'utilisation d'éléments du monde militant et donc du travail non rémunéré, on pourrait même dire du travail gratuit, sont autant d'outils pour justifier des conditions moindres au travail. Donc voilà, sur cette... Bon, il y a d'autres éléments, mais pour aller un peu à l'essentiel, sur cette idée de comment le management utilise les éléments de l'engagement. Le troisième symptôme, c'est celui de la dissonance cognitive, pour avoir un terme un peu pédant, mais c'est en gros le « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Et là, ce qui me semblait intéressant, c'était de voir que l'écart donc, entre le discours tenu par l'employeur ou l'organisation, et les pratiques concrètes de management, c'est pas juste un problème rhétorique, un problème de c'est pas logique, tu dis quelque chose et t'en fais une autre. C'est que ça a des conséquences concrètes pour les salariés. Déjà, si on regarde dans les critères des risques psychosociaux, il y a dedans la dissonance la dissonance en termes de valeurs. Donc c'est déjà en soi un risque psychosocial. Il me semble que, et c'est là où je voyais un peu une spécificité du management de gauche, du management de l'engagement, c'est que j'ai l'impression que pour un même problème qu'on va avoir dans une entreprise classique et dans une organisation engagée, les salariés de l'organisation engagée vont devoir lutter sur ce problème-là. On va dire par exemple le décompte et la récupération des heures supplémentaires. Mais en plus, il y aura un obstacle supplémentaire qui va être de détricoter le discours qui dit « Mais non, mais en fait, ici, ce n'est pas une organisation classique, tu fais des heures sup parce que c'est pour la cause et tout ça. » Et du coup, c'était ça qui me semblait important de voir aussi. Ça ne veut pas dire du tout que c'est les pires conditions. Il y a des problèmes au travail partout, il y a parfois pire. Mais il me semble qu'il y a une spécificité dans le management de gauche, une spécificité dans le management de l'engagement, qui est d'avoir cet obstacle de plus et qui est un obstacle discursif. Donc voilà là-dessus sur la dissonance cognitive. Et ensuite, le quatrième symptôme, qui est lié aussi au reste, c'est ce que j'appelais le refus des contre-pouvoirs et surtout l'antisyndicalisme de gauche. Et moi, ça me semblait intéressant parce que souvent, quand on parle d'antisyndicalisme, on prend des exemples dans d'autres pays ou alors si c'est en France, ça va être des très grandes entreprises. Et là, j'ai été pas surpris parce que j'imaginais bien, mais j'ai vu ça quand même beaucoup de fois, un antisyndicalisme de gauche. Là, ça renvoie à ce qu'on disait, à ce que je disais, il n'y a que moi qui parle pour l'instant, à ce que je disais au début sur le fait de l'employeur qui ne s'assume pas comme employeur. Une autre conséquence, ça va être ça. Ça veut dire, si je ne suis pas patron, tu n'es pas salarié, et donc il n'y a pas besoin de syndicat. Et c'est d'ailleurs presque mot pour mot ce que dit une employeuse, si je retrouve... une employeuse dans un média engagé. Vous refaire une petite citation qui me semble intéressante d'un entretien. Il explique qu'il a essayé de créer une section syndicale. On parlait de ça avec des collègues et l'idée d'une section syndicale est apparue dans la discussion. Je n'avais pas d'expérience syndicale, mais on a considéré que je pouvais devenir représentant des salariés. J'avais assez peur. Je m'étais fait licencier de mon ancien travail pour avoir conspiré contre le patron. Quelques jours plus tard, la réunion a fuité auprès de la direction. Je me suis fait convoquer par la patronne. L'entretien était clair, elle voulait me virer. Elle m'a dit que je manipulais l'équipe, que je la montais contre elle, que je lui faisais des coups dans le dos. Oui, c'est ça. Des coups bas dans le dos. Il y a une erreur. Sa position, 2 points, donc là c'est une citation de l'employeuse, il n'y a pas besoin de syndicat parce qu'il n'y a pas de patron. Ensuite ça continue. Je lui dis que c'était contraire au droit du travail, sa conclusion, il n'y a pas de syndicat ici. C'est un exemple, mais je l'ai entendu plusieurs fois, ce discours-là de dire... je m'étais perdu dans mes pages. Pas de patron, pas de syndicat. C'était un peu ça les 4 symptômes qui, moi, me semblaient revenir, qui de fait revenaient dans les entretiens et qui, bon, il y a, il y a, il y a, y a d'autres éléments dedans que bah, je ne vais pas plus m'éterniser dessus. Mais voilà, c'était un peu autour de ces quatre symptômes que, pour moi, il y avait une spécificité dans le management de gauche, le management de l'engagement. Donc voilà un peu sur la partie ce que je raconte dans le livre. Et maintenant, pour le côté plus, bah voilà, je suis venu ici, autant partager un peu pourquoi j'ai fait ça. Parce que c'est d'ailleurs une question que je me posais de bon, bah, pourquoi je fais ce livre, plus tout un truc de légitimité aussi. Mais bon, ça, c'est d'autres sujets, je ne suis pas obligé de les aborder là devant tout le monde, mais c'était un problème qui se posait aussi pour moi. Et aussi dans le sens où ce n'est pas une étude sociologique, ce n'est pas une enquête journalistique, ce n'est pas un manifeste syndical, mais c'est un peu un mélange des trois. Bon, et tout ça faisait que je me posais ces questions-là. Et un peu les réponses à tout ça et un peu le pourquoi de cette démarche sont les suivants. Déjà, ça venait d'un besoin personnel de... moi, j'ai travaillé pour des élus de gauche, pour le dire comme ça. J'étais donc attaché d'élus de gauche. Et en fait, dans mon quotidien au travail, j'avais ni l'espace pour parler de ce qui m'arrivait au travail, ni les mots. Et c'est ça qui me semblait important. C'est-à-dire qu'il y a une citation d'une personne qui travaillait un peu dans le même milieu qui disait un peu ça, de... En fait, finalement, on est dans une situation où le quotidien est sur-politique, c'est-à-dire que l'activité en elle-même est très politique. Là, c'est parce qu'on était désattachés d'élus, mais il me semble que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres organisations. Mais le quotidien lui-même est sous-politisé. Et je pense que c'était ça, en fait, ce décalage entre une activité sur-politique, mais elle-même sous-politisée, qui faisait que voilà, je ne trouvais pas les mots, pas l'espace pour en parler. Et je suis parti de ces... j'ai réussi à partir de ces expériences négatives. J'en parle un peu plus dans le livre si jamais ça intéresse, mais j'ai réussi à partir de tout ça et je suis resté quand même avec une colère et une envie un peu de vengeance, de en fait je peux pas partir et les laisser comme ça comme si de rien n'était, parce que plus c'est des secteurs où il y a pas mal de turnover et un peu ce sentiment là et donc du coup c'est à partir de là, en parlant autour de moi, que je voyais que dans d'autres secteurs qui n'avaient pas grand-chose à voir avec moi, je ne sais pas, la distribution ou même le milieu associatif, en fait, on trouvait des problèmes similaires. Donc ça vient un peu de ça. Ça vient un peu de ça à la base. Et après, ce qui me semble important aussi avec ce sujet et ce que j'essaie de faire avec ce livre, c'est le côté du coup plus militant, politique, c'est... faire passer le message ou plutôt faire relayer le message, parce que ce message existe déjà, mais le faire relayer, de dire à gauche aussi, dans les organisations aussi, on souffre au travail. Et c'est remettre un peu en cause un peu cette idée de il y a le salariat classique et puis il y aurait un espèce de salariat, il y en a même qui utilisent le mot alternatif, qui serait le salariat de l'ESS, du milieu associatif de gauche. Et c'est dire, on souffre aussi au travail et il y a des facteurs, enfin, il y a des éléments qui sont qui reviennent spécifiquement du fait du management de gauche. Je me voile pas la face, il y a aussi d'autres facteurs, j'en parle aussi à un moment, en fonction de la taille de l'organisation, des moyens économiques, de la structure juridique, du secteur d'activité, ou même des choses plus comme l'histoire de l'organisation, la personnalité de l'employeur. Effectivement, il y a énormément de facteurs qui vont déterminer les conditions de travail, mais il me semble que le contexte engagé, le mélange du contexte engagé et du salariat crée un management assez spécifique qui sont ce que je disais avant, les quatre symptômes. Et justement, je parlais avec donc des camarades de Solidaire Asso, mais Île-de-France, et qui disaient justement que eux, dans leur action, ils voyaient de plus en plus que le discours un peu de le patron est gentil, l'organisation me semble, le combat me semble juste, en plus il n'y a pas beaucoup de moyens, que ce discours-là commençait un peu à se fissurer et que de plus en plus il y avait cette idée de même s'il y a une bonne ambiance, même si tu t'entends bien avec ton employeur, même si la cause est juste, se rappeler qu'entre nous et eux, il y a un contrat de travail. Et qui dit contrat de travail dit rapport de subordination. Et donc, donc responsabilité de l'employeur et donc nécessité de contre-pouvoir, comme par exemple l'action syndicale. Donc c'est aussi ça un peu l'objectif de ce livre, c'est continuer à porter ce message qui est déjà porté et travaillé par les travailleuses et les syndicats. Ça, c'était un peu le deuxième objectif. Et le troisième aussi un peu objectif de cette démarche, c'est ce que je disais aussi un peu avant, c'est de partager un peu ma frustration de voilà comment ça se passe, mais en fait, ça aurait pu être autrement. Et même, on serait en droit d'exiger que ce soit être autrement, au sens où on entend souvent un peu le discours, surtout du côté électoraliste, mais bon, c'est là-bas que j'ai eu mon expérience, de il faut mettre la gauche au pouvoir et vous verrez quand la gauche sera au pouvoir, ce sera différent. Mais là, l'objectif, c'était aussi un peu de dire, mais en fait, la gauche est déjà au pouvoir, la gauche a déjà un pouvoir, bon, pas au pouvoir de la République, tout ça, mais a déjà un pouvoir, et ce pouvoir, c'est un pouvoir d'employeur. Et justement, quand on voit ce que la gauche fait de ce pouvoir-là, ça dit beaucoup aussi d'elle-même, et l'idée, c'était aussi un peu de dire, en fait, ce qui se passe en interne des organisations est politique. Donc là, c'est ça renvoie aussi à toute la lutte féministe et antiraciste, mais là, de le poser du point de vue du travail, de dire ce qui se passe en interne, en termes de conditions de travail, c'est politique et ça dit beaucoup de vous-même et de votre ligne politique. Donc c'était aussi ça un peu l'objectif de ce livre, et du coup, il y a un chapitre aussi là-dessus. Et enfin, j'ai tenu parfaitement. Je voulais faire une demi-heure pour après qu'on puisse parler, mais donc c'est parfait. Et le dernier point, c'était un peu du coup le deuxième titre, c'est manuel d'anti-management. C'est quelque chose auquel j'avais pas pensé au début, mais au fil de la rédaction, de la réflexion et des discussions pendant la rédaction, c'est quelque chose qui est venu. C'est cette idée en fait que le management. C'est avant tout cet espace un peu de partage entre les managers et les patrons de leurs trucs et astuces pour mieux subordonner les salariés, pour le résumer comme ça. C'est, si vous lisez un livre de management ou si vous regardez les cours de management, c'est ça. Comment faire pour mieux subordonner les salariés, mais au sens le mieux étant pour avoir une meilleure productivité, tout ça. Et là, l'idée, en fait, c'était ce que je disais avant, c'était pour une fois, on va faire l'inverse. Donc, c'est ça l'idée de anti-management, c'est dans le sens de faire l'inverse. C'est pas les patrons qui vont se partager leurs trucs et astuces pour manager, mais c'est les salariés qui vont partager les trucs et astuces des patrons pour mieux les comprendre et du coup pouvoir mieux lutter contre ça. Et anti-management, c'était aussi cette idée de si réellement, parce qu'on entend beaucoup parler de tout ça, il y a des documentaires là-dessus, le bonheur au travail, le bien-être au travail, comment parvenir à un travail moins aliénant, il y a même l'idée d'entreprise libérée, tout ça. L'idée, c'était, et encore une fois, c'est quelque chose, je ne pensais pas que j'allais arriver à parler de tout ça, mais c'est au fil des entretiens que c'est venu. C'est cette idée que si réellement, en fait, on veut penser au bonheur, au travail, ou en tout cas moins de souffrance au travail, ce n'est pas du côté du management. Ce n'est pas par en haut que ça se passera, mais par en bas, par l'anti-management, c'est-à-dire par une réappropriation par les travailleuses elles-mêmes de leur outil de travail. Et là-dessus, il y a du coup aussi bien la question économique dont on parle souvent dans les milieux militants de gauche. Et ça, là-dessus, je le dis, je le reviens là-dessus, tant qu'il y a du salariat, il y aura de la subordination. Donc la propriété privée des moyens de production empêche un travail moins aliénant, voire pas aliéné du tout. Donc bien sûr qu'il y a la question économique qui joue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question de la définition du travail au sens des tâches, de l'organisation du travail et de la valorisation du travail. Et ça, c'est, encore une fois, c'est des choses, je n'imaginais pas en travaillant sur ce sujet que ça allait venir, mais au fil des entretiens, tout ça, c'est venu bien sûr, revendiquer la réappropriation économique des moyens de production, mais aussi le fait que ce soit les salariés qui valorisent le travail. Là, ça paraît général, mais pour être beaucoup plus précis, un problème qui arrive souvent, c'est la question des heures supplémentaires. Ça se pose, on va dire, partout, mais dans les milieux militants, ça se pose, et surtout quand se pose la question de « il y a une manif, je vais avec mon organisation faire la manif, est-ce que c'est du temps de travail ou est-ce que c'est du temps militant? Je pense que bon, on se la pose souvent cette question et je ne vais pas vous donner la réponse parce que je n'ai pas la réponse de savoir comment distinguer tout ça. Mais ce que je voulais par là, c'est que il me semble que justement pour prendre cet exemple-là, souvent on le prend en réfléchissant par le haut, c'est-à-dire bah, l'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire, quels critères il doit donner. Et ben bah, il me semble que et les expériences positives un peu que j'ai pu voir dans les entretiens et qu'il y a dans le livre, bah, partaient de ça. C'était les fois où c'était les salariés elles-mêmes qui décidaient de la valorisation du travail, c'est-à-dire quand est-ce que c'est du travail salarié, quand est-ce que ça relève bah, du travail libre, enfin en dehors du salariat. C'était là que ça se passait le mieux. Ça paraît un peu banal de dire ça, mais le fait est que ça arrive assez rarement dans les organisations. Donc voilà ce que je voulais dire dans anti-management comme invitation à se réapproprier l'outil de travail, pas seulement économiquement, mais aussi dans la définition au sens large du travail. Et j'y repense, je l'ai pas dit, mais il y a aussi des expériences positives dans le livre. Il n'y a pas que du négatif. Enfin, voilà, c'est pas que déprimant. Eh bien, oui, voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Bah, j'avais encore deux, trois trucs, mais je sais pas si je me relance ou... bah, je crois que ça fait déjà un petit moment que je parle et ça, je pense que ça peut être bien de passer un peu la parole. Du coup, si ça vous va, on passe à la phase échange. Et je sais pas si les personnes de ASSO, vous voulez intervenir, ça vous va d'intervenir maintenant? Super, merci. Merci.
Eh ben bonsoir. Du coup, on est quelques-uns, quelques-unes de ASSO solidaire dans la salle. Avec l'idée qu'on se disait, ah, peut-être là, il y aura des gens qui sont intéressés de savoir qu'on existe à Toulouse. On est du coup rattaché à Solidaire, mais on a un syndicat autonome national et on est la section locale à Toulouse. Et ici, on organise... tous les mois, une permanence d'accueil un peu pour se créer de l'entraide et de la solidarité entre nous sur bah, qu'est-ce qui se passe dans nos lieux de travail, dans nos associations, c'est quoi les problématiques auxquelles on fait face, si on est dans de la souffrance au travail ou juste qu'on a des questions sur sa fiche de paye ou sur son contrat de travail ou qu'on est en conflit avec sa hiérarchie. Bon, l'idée, c'est que c'est un espace où on peut venir parler de ça en confidentialité et aussi avec l'idée de... Ben voilà, de moins être isolé et seul face à ces situations-là, surtout quand on est aussi dans des petites structures ou alors qu'on est seul et qu'on n'a aucun collègue avec qui en parler. Et donc ça, c'est tous les mois. On a des petits flyers qu'on a mis peut-être sur une table là où il y a les livres, enfin, vous pouvez en prendre. Et donc c'est bienvenu pour tout le monde et qu'on soit salarié en CDI, en CDD, service civique, stagiaire, enfin, peu importe son statut... Voilà, alors plutôt, c'est pas à destination des employeurs, plutôt c'est à destination bah, des travailleurs, travailleuses, même si on sait que les personnes qui sont dans les CA font du travail gratuit par ailleurs, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas du travail, mais plutôt, voilà, c'est plutôt côté des salariés. Donc on fait ça, et après on a aussi une réunion mensuelle par mois pour des personnes qui aimeraient militer, qui est pareil, ouverte chaque mois pour venir nous rejoindre. Et le syndicat, il existe à Toulouse depuis 4 ans. Donc on est récent, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et cette année, on a pas mal de choses en cours que Elliot va vous présenter, mais juste pour information, l'idée aussi de venir aux permanences, c'est de connaître plus, de s'informer sur ses droits en tant que salarié, et notamment les droits à la formation syndicale. On a le droit à 12 jours de formation syndicale par an sur son temps de travail. Et en avril, il y aura, on accueille l'AG, l'Assemblée Générale du Syndicat ASSO National à Toulouse. Et il y aura notamment à cette occasion des formations qui seront accessibles sur votre temps de travail. On pourra vous expliquer comment ça marche, mais c'est très simple. Il faut juste prévenir son employeur 30 jours avant, et c'est un droit. Et après 2 jours d'AG, si vous êtes intéressé de vivre la démocratie interne d'un syndicat. Enfin, voilà. Mais au moins, ces temps de formation seront organisés en avril. Voilà.
Ouais, pour finir la propagande On voulait aussi vous parler vite fait qu'on a mis en place un questionnaire à destination. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui travaillent dans le secteur associatif, donc ça ne parle pas de tout ce qu'a dit Arthur. Mais bon, cette dynamique du travail passion et tout ça, on a mis en place un questionnaire qu'on peut, si ça vous intéresse de le faire avec nous, bah, c'est pour voir un peu quelles sont les conditions de travail, comment elles sont vécues par les travailleurs, les travailleuses. Et nous, on est en ce moment fortement, on essaie en tout cas fortement de se mobiliser pour la question des retraites parce que les retraités, un jour ça sera nous et on est déterminé là-dessus. Et on pense qu'on peut aussi faire la grève dans les assos, c'est aussi un droit. Et c'est pas parce qu'on a un travail passion ou quoi qu'on n'a pas le droit de faire la grève et de se mobiliser ou qu'on a un patron de gauche qu'on peut pas y aller, arrêter de travailler aussi, bloquer son outil de travail. Même si on pense qu'il est pertinent, ça peut aussi être pertinent de prendre du recul dessus. Donc nous, on est aussi dispo pour aider les travailleurs, les travailleuses qui veulent se mettre en grève. Et donc mardi, à 10h, on va faire un cortège à départ de la manif à Saint-Cyp. On sera devant Emmaüs, si jamais vous voulez nous rejoindre, nous discuter avec nous. Et l'après-midi, on organise une AG pour discuter de nos conditions de travail. Donc voilà, moi je voulais dire ça. Je voulais remercier Arthur pour nous laisser nous exprimer vite fait comme ça. Et c'est après, peut-être pour partir sur la discussion, c'était super intéressant d'entendre, je trouve, tes mots parce qu'ils sont très justes. Et c'est vrai que nous, c'est des choses qu'on entend beaucoup aussi dans le cadre de notre permanence syndicale, tout ce constat que tu as fait et cette souffrance et de prendre du recul. C'est aussi à ça que ça sert. Tu as parlé que quand tu étais au travail, tu n'arrivais pas à poser des mots et à trouver l'espace. Bah, nous, c'est un petit peu ce qu'on essaye, avec nos petits moyens, de permettre que les gens puissent prendre du recul sur leur travail et réfléchir à ça. Donc ça, c'est précieux, c'est important. Ça donne grave envie de le lire. Moi, je ne l'ai toujours pas lu, mais il était sur ma table de chevet, donc j'ai vachement envie de m'y mettre. Et voilà, je ne prends pas plus de parole que ça. Merci. Après, je peux enchaîner si jamais. Je m'étais noté des petits points. Moi, j'avais une question un peu, mais c'est un peu un truc abstrait, mais je me suis dit, parce que tu as choisi d'appeler le truc le syndrome du patron de gauche, et tu as parlé un moment un peu du patron engagement, de l'engagement. De l'engagement. Et je me dis, je pense qu'il y a aussi des structures de droite militante qui peuvent avoir ces biais en fait, qu'on retrouve nous dans nos structures, genre les fachos ultra engagés. Je pense qu'ils ont les mêmes, peut-être les meilleures façons de réfléchir, enfin le même management de l'engagement en fait. Mais après, ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous donc c'est pas exactement. Bon, c'est complètement tort de la réflexion, mais j'ai pensé à ça. Je sais pas si tu avais réfléchi au fait que ça pouvait aussi se voir dans les. Chez nos ennemis, ouais. Chez les patrons. Je pose cette question. Non, bah, je sais pas si tu as réfléchi à ça.
Ouais, je sais pas s'il y a d'autres inters ou sinon. Voilà.
Ouais, moi je me posais la question aussi parce que je bosse dans une asso où pour le coup on a un syndicat qui est bien implanté, on a une commission paritaire dans notre réseau. Donc on a cette dimension de dialogue social. On se rend compte qu'il y a toujours énormément de souffrance au travail dans tout notre réseau. Et en même temps, on est face à des patrons qui sont impuissants face à ça, parce que pour le coup, ils n'ont pas fait d'école de management, ils n'ont pas fait d'école de commerce. Enfin, pour le coup, moi, c'est des gens qui ne sont pas du tout de ce monde-là, qui sont arrivés là parce que on connaît l'état du militantisme aujourd'hui dans le monde associatif. Ils sont arrivés là parce qu'ils sont présidents démissionnaires depuis 5 ans. Et ils se retrouvent à avoir peu de moyens, peu de temps à accorder. Et finalement, bon, on est dans des situations où il y a des postures salariales qui sont justement ne pas compter ses heures sup, travailler jusqu'à très tard, qui créent des formes, enfin beaucoup de burn-out. Et donc moi je me pose aussi cette question-là, quoi, de dire si on part sur une forme d'autogestion comme c'est le cas, enfin dans les situations actuelles, en fait on va continuer à couler notre truc parce que en fait nous on se rend compte que c'est au patron de mettre un cadre, parce que sinon c'est nous-mêmes qui nous mettons un cadre qui n'existe pas et qui est un propre cadre qui est de surexploitation. Mais pour autant, nos patrons, ils n'arrivent pas à le mettre. Et là, j'en ai rediscuté ce matin. Ils nous ont bien dit, en fait, il faut que vous posiez vous-même vos règles pour qu'on vous les fasse appliquer. Mais en même temps, ce n'est pas eux qui vont prendre le temps de pointer nos suivis d'heures sup. Et voilà, c'est aussi cette question-là. En tant que salarié, est-ce qu'on n'a pas aussi ce besoin, cette nécessité d'accompagner nos patrons à monter en compétences et peut-être à les faire se rendre compte de quelle façon ils pourraient agir et peut-être leur proposer des outils avant de passer sur une forme d'autogestion des biens qui pose plein d'autres problèmes.
Moi, je n'ai pas compris en fait la définition du patron de gauche. J'ai besoin de l'éclaircir. Parce que des fois, j'ai eu le sentiment que c'est un problème de personnalité. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner. En fait, il voudrait le faire, mais il n'y arrive pas en tant que personne. Des fois, c'est parce qu'il encadre des bénévoles, auquel cas, c'est plus lié peut-être à un statut ou de fonctionnement. À un autre moment, c'est une volonté, puisqu'il ne voulait pas de contre-pouvoir. Et là, c'était peut-être plus une notion de, je sais pas, d'autoritarisme. Et en fait, c'est flou pour moi. C'est quoi un patron de gauche, quoi ? Parce que c'est des cadres différents de travail, finalement. Et les réponses ne sont pas les mêmes selon les... Et des fois, c'est juste la personnalité qui fait qu'on n'arrive pas à se positionner, quoi. Comme le dernier témoignage l'a dit, ouais. Donc j'ai besoin de cette clarification, si on peut savoir de quoi on parle, quoi.
Ok, oui. Oui, mais c'est que... Enfin, moi, je préfère le format où, enfin, même c'est pas genre vous posez des questions et je réponds, mais on discute entre nous. Mais je peux aussi prendre la parole. S'il y avait d'autres tours de parole. Ouais, ouais.
Je me permets de profiter de la soirée aussi pour vous donner un exemple de conflit syndical avec un patron de gauche là, qui est en cours à Toulouse et qui lui rend pas mal. Moi, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai entendu d'autres entretiens que tu avais fait, etc. J'attends que mon syndicat l'achète pour l'emprunter à la bibliothèque. Là, c'est à Toulouse. Moi, je suis ouvrier dans l'alimentation. Alors, c'est pas le secteur santé, parce que dans le secteur associatif, il y a quand même pas mal de santé sociale ou des choses comme ça. Là, c'est une boulangerie-pâtisserie. je suis syndiqué au syndicat industrie-service CNT. Et en vrai, depuis qu'on a remonté le syndicat, c'est sûrement le conflit où on a affaire à un patron le plus radical qu'on a jamais eu à faire. Et le côté de gauche joue beaucoup dans sa radicalité. Ça nous... je ne vais pas prendre de plomb, mais en gros, c'est un truc normal, classique, surtout dans des petites structures. C'est une boulangerie-pâtisserie, du coup, associative, pour le coup. Et le statut associatif est quand même pas mal pratique pour des entrepreneurs. Voilà, je fais une parenthèse là-dessus, mais des fois, c'est aussi un outil qui donne pas mal d'avantages, le statut associatif, quand on est entrepreneur. Là, c'est une histoire juste d'heures impayées, des salaires minimums, des salaires de tous les salariés qui sont passés dans la boîte de l'ouverture qui n'ont jamais été payés au salaire minimum conventionnel, peu importe leur classification, de problèmes de conditions de travail. Ils faisaient des descentes quand les salariés mettaient le chauffage en hiver dans la boulangerie. Les chiottes, ils refusaient de les laver depuis que le commerce a ouvert. Ils refusaient de mettre une porte. Bon, ça, c'est depuis l'intervention de l'inspectrice du travail. Il a mis une porte et il commence à laver les toilettes. Il avait mis de la vidéosurveillance de manière complètement sans respecter le cadre légal pour surveiller les salariés. C'est un des trucs qu'on peut trouver. Voilà, c'est classique. Mais ce qui est vraiment original, je trouve, avec ce patron, donc c'est la boulangerie, c'est à Pâte à Levain, pour ceux qui connaissent, c'est au quartier Fontaine-Lestangue. Et merci aux camarades d'Assaut Solidaire d'avoir aussi signé la tribune de soutien aux camarades. Et il a une pâtisserie aussi, mais qui vient de fermer, dans le quartier pas loin de Saint-Cyprien, rue Cugnot. Ce qui est... je suis un peu décalqué, là. Quand il y a des trucs d'entorse au droit du travail, ce qu'on fait souvent syndicalement, on se pointe en tant que syndicat voir le patron. Lui dit, il y a un litige avec tes salariés ou tes anciens salariés. Nous, on te propose de se mettre autour d'une table. On voit ça et on essaie de régler ça à l'amiable. En plus, pour eux, c'est ni vu ni connu. Ça les arrange. Et 95% des cas, en un mois ou deux, on a un accord informel ou des protocoles d'accord transactionnel. Les rappels de salaire sont payés et basta, quoi. Et tous les patrons acceptent le premier entretien, normalement, parce qu'ils veulent savoir concrètement ce qu'il leur est reproché. Et lui, dès le début, il a fait preuve d'un antisyndicalisme primaire. Ça l'a fait chier qu'il y ait les salariés. Il y a l'ancienne pâtissière et deux anciennes vendeuses qui sont dans le conflit, qui se battent, mais surtout qu'il y a un syndicat, quoi. Donc il a refusé dès le début de nous voir. On a dû commencer à faire des piquets devant la boîte. Après le premier piquet, il a accepté l'entretien, mais ça a été... Voilà, le type qui mettait des coups d'épaule et tout sur le piquet, vraiment bien vénère. Et après, il s'est fermé complètement dans le déni, en traitant les salariés de menteuses. Et surtout en essayant de contourner le syndicat. Et c'est, en gros, il leur envoyait des recommandés directement à elle chez elle pour leur dire oh, je veux bien parler, mais sans le syndicat, etc. Donc vraiment, l'antisyndicalisme là était. Mais... Et aussi la non-compréhension de ce qu'était un syndicat, parce que le type, il voyait le syndicat de salariés comme une sorte d'arbitre entre les patrons, surtout en tant que patron de gauche, et les salariés. Et ouais, il ne comprenait pas ce truc-là, quoi. Et bon, c'est, là, je fais un peu de pub quand même pour le conflit, c'est qu'il y a une campagne de boycott du coup contre la boîte depuis 8 mois. Il y a un appel au boycott depuis l'été dernier. Il est assez, bah, il est sur une ligne. Il s'est vanté publiquement dans une lettre aux clients qui préféraient liquider sa boîte que de négocier avec un syndicat par principe. Donc on parle d'antisyndicalisme primaire. Donc voilà, il y a toujours une campagne de boycott en cours. Donc s'il y a, vous connaissez des gens qui sont dans ces quartiers-là, Fontaine-l'Estang. Bah, la pâtisserie vient de fermer, hein, la campagne de boycott, ça marche. Bon, depuis, il a accepté de prendre une avocate, il a fait une pseudo-négo. Bon, il a fait un premier chiffrage, dans sa deuxième proposition, il a proposé encore moins que dans le premier, par provocation. Bon, et voilà. Et après, désolé. Hein. Je me permets juste une remarque sur les patrons. Il y a un truc aussi social au-delà des patrons de gauche, dans entre guillemets du peuple de gauche, de tolérance, et on l'a vu vraiment avec ce conflit vis-à-vis des patrons de gauche, quoi, et vis-à-vis des entorses qu'ils peuvent faire à nos droits, à nos conditions de travail. C'est que bah là, nous, on est confrontés aux clients en faisant des piquets de boycott, etc. On en a fait une dizaine. C'est le quartier, notamment Fontaine-l'Estang, il y a une partie pavillonnaire plus classe moyenne salariée, et 500 mètres plus loin, il y a des tours où là, c'est plus prolo. Quand on diff dans les tours, les directs, les camarades, ils solidarisent avec les salariés. Pas une seconde, ils vont empathiser avec le patron, etc. Ils solidarisent avec le boycott. Le problème, c'est qu'ils n'achètent pas leur pain dans la boulangerie bio parce qu'il est trop cher. Mais par contre, dans le quartier pavillonnaire, on a été confrontés à... Alors, ça a bougé. Il y a des gens qui sont rapidement solidarisés les salariés, mais un truc de... ouais, mais quand même, pourquoi vous emmerdez un pauvre petit patron? Déjà, c'est un petit commerce. Bon, ça, on l'a à chaque fois qu'on a des conflits avec des petits commerces. Mais là aussi, spécifiquement, c'est cool, c'est une boulangerie bio, solidaire, il a déjà fait du pain pour des migrants. C'est, voilà, pourquoi vous vous attaquez pas à Carrefour et c'est vrai que c'est... et on a même vu aussi, parce qu'on a fait tourner une tribune de soutien, donc, par exemple, les camarades d'Assaut Solidaire l'ont signé, il y a pas mal de syndicats qui l'ont signé, mais on a vu des groupes qu'on pensait qu'ils allaient signer, qui étaient gênés de la cité. Donc, au-delà même du peuple de gauche, dans des organisations militantes de gauche, voire même des fois qui se disent radicales, etc., il y a une sorte de tolérance, une sorte de laisser-passer, un peu, ouais, vu qu'il est de gauche, on doit accepter des trucs qu'on n'accepterait pas si c'est à Carrefour, quoi. Voilà, j'ai terminé. Et si j'ai des tracts, si les gens sont intéressés, le dernier tract, je sais pas si je peux le foutre quelque part ou j'en ai là, en tout cas si ça intéresse des personnes. Voilà.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bah, peut-être pour commencer sur la définition de patron de gauche. Bah oui, c'est flou, et disons que j'assume ce côté flou, au sens de, parce que j'ai déjà eu des discussions avec des personnes qui sont des vrais sociologues, qui ont des doctorats, qui sont, voilà, et effectivement, c'est pas rigoureux scientifiquement de dire patron de gauche, parce que de gauche, où est-ce qu'on met la limite, enfin voilà, donc j'assume que c'est pas rigoureux, mais ce que je disais tout à l'heure, c'était que déjà, le choix, c'était, pour suivre un peu le geste du livre, c'est partir des paroles des salariés de ces secteurs-là, qui est le secteur de la production engagée. Là, c'est un terme sociologique d'une sociologue, et c'est défini sociologiquement. Et c'est partir de ce terme-là, parce que bah, déjà, c'est la parole... Enfin, je trouve qu'il y a un intérêt en reprenant l'expression des personnes directement concernées par un sujet. Et en plus, deuxième justification, je trouve que ça montre bien la tension entre patron... la tension patron et engagement de gauche. Et enfin, le fait même que ce terme soit flou, je pense que ça permet aussi d'illustrer ce que j'essaie de démontrer, qui est que un des gros problèmes du management dans ces organisations, donc que j'appelle management par l'engagement, c'est justement que l'engagement vient comme être un espèce de brouillard, une fumée par-dessus la réalité des rapports, qui sont des rapports salariaux. Et du coup, bah, au lieu de dire clairement il y a un patron, il y a un salarié, si des problèmes se posent, ça se pose en termes de conditions de travail, de revendication de tout ça, ce qui est entre toi et moi, c'est un contrat de travail, bah non, on va mettre tout plein de termes, mais non, ici c'est on est des camarades, c'est un projet, tout ça, et bah du coup, mais peut-être que c'est un peu forcé de dire ça, mais de oui, le flou, l'expression elle-même patron de gauche est un peu flou, mais c'est pour montrer que ce management lui-même est flou, quoi. Et enfin, pour quand même répondre dans le fond de tout ça, qu'est-ce que j'appelle patron de gauche. L'idée, ce n'était pas tellement de définir le patron de gauche, mais de parler d'un syndrome du patron de gauche. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire, bah voilà, il y a, du coup, là, pour être très précis, il y a pour moi 4 types de pratiques qui sont typiques des pratiques managériales dans les organisations engagées. Et c'est les pratiques que j'ai dites avant. Donc voilà, ce que j'essaie de répondre quand on me demande la définition précise du patron de gauche, la question, c'est pas tellement qu'est-ce qu'un patron de gauche, où ça commence, où ça termine, mais que on parle de management, et dans le monde du management, il y a ce syndrome qui est donc le syndrome du patron de gauche ou le management par l'engagement. Voilà, c'est ça un peu la façon dont je vois les choses. Et du coup, pour faire la transition avec la question sur patron de droite, on m'a déjà demandé et ce que j'avais répondu, je le pense toujours, mais tu l'as un peu déjà dit. Sans doute qu'il y a des éléments qui vont revenir sur le côté engagement. Sauf que ça doit être assez glauque le type d'engagement et les discours qui tiennent sur tu fais des heures sup mais c'est pour et ensuite suit un truc horrible, mais bref, mais du coup sans doute, là encore j'assume ce choix. Moi je viens du milieu, je viens d'un milieu syndical et de gauche ou alors d'extrême gauche, et c'est ça qui m'intéresse. Si d'autres personnes veulent travailler sur la droite et l'extrême droite, soit, mais moi ce qui m'intéresse c'était ce milieu-là, et surtout un peu ce que tu disais aussi, c'est moi en venant de ce milieu-là, de dire en fait il y a des choses qui se passent qui ne sont pas acceptables. Ce que tu décrivais très bien, c'est ce truc de puisque c'est la gauche, on permet plein de choses qui sont inacceptables, et du coup c'était un peu de dire mettons un peu la tête dans ce qui se passe dans nos propres organisations et travaillons un peu sur nos sujets en interne, parce qu'il y a de quoi faire. Et ensuite, pour finir un peu sur ce qui a été dit, sur en tant que salarié, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les patrons. Moi, je pense que, je comprends la question et la position, mais justement, je pense qu'en fait, désolé de revenir à un truc qui pourrait paraître un peu élémentaire, basique, mais et je conclue un peu le livre là-dessus sur syndiquez-vous, et en assumant qu'en fait ça n'a rien d'original de dire ça, mais en fait c'est qu'il me semble que dans tous les points qui se posent par le management, par l'engagement, donc si on le résume par le brouillard du discours engagé et tout ça, l'outil que là je vois, et que dans les entretiens ce qui ressortait, le meilleur outil, c'est l'outil syndical, parce qu'en fait le fait d'avoir un syndicat, ça permet de court-circuiter directement tout le discours de ah mais non il n'y a pas de patron. Si, en fait il y a des personnes, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qui peut aller dans le syndicat et qui ne peut pas y aller. La personne qui ne peut pas y aller, si elle ne peut pas y aller, c'est parce qu'elle a une position d'employeur, donc ça permet de clarifier les rapports. Il y a des salariés, il y a un employeur. Sur la question du management par l'engagement, ça permet de dire tu peux nous sortir tout le discours que tu veux, le discours que tu utilises pour l'extérieur de l'organisation, mais là ici on est des salariés, et donc revenir au rapport salarial. Sur pareil la dissonance cognitive de la souffrance supplémentaire pour les salariés d'entendre un discours et de voir d'autres pratiques, il y a pas mal d'entretiens qui reviennent là-dessus, sur le syndicat et sur la grève, où il y a l'exemple d'un théâtre très engagé où il y a eu un mouvement de grève fort, et où les personnes parlent avec des termes très forts quand même, en disant mais en fait c'est même plus de la dissonance cognitive, c'était de la dissociation. C'est-à-dire que je ne savais plus, j'étais complètement sonné, je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus qui j'étais dans cette situation de travail complètement aberrante. Et en fait c'est par la grève que donc c'est des personnes qui ont fait des arrêts maladie, qui ont quand même eu l'occasion de physiquement prendre une distance avec leur travail, mais c'est par la grève qu'il y a eu vraiment ce moment de prise de distance avec le discours engagé, retour dans la réalité qui est une réalité d'un rapport salarial, et aussi tout le moment de la grève qui est... la grève, ce n'est pas seulement le blocage de l'économie, quelqu'un le disait avant qu'on commence, mais c'est aussi un moment on se retrouve entre salariés, tout ça. Sur cette question de, en tant que salarié, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les patrons, je pense que ce n'est pas tellement leur proposer une grille de formation sur le management, même s'ils devraient le faire, ils et elles devraient le faire, sans doute. Quoique ça pose d'autres questions, parce que les formations de management ne sont pas très radicales. On part de tellement loin parfois que déjà s'ils savaient que c'est à eux de limiter les heures de travail et plein d'autres choses, ça se trouve, ça serait un peu moins grave. Mais en tout cas, là, je voulais en venir, c'est que je pense que le meilleur moyen d'aider nos employeurs, si on part de ce point de vue, de les accompagner, de les aider, c'est de monter un syndicat et de faire grève. Ça fait un peu, ça fait un peu facile de dire ça, mais c'est en tout cas ce que je pense et ce qui ressortait un peu de tout ça. Et du coup, voilà un peu ce que je voulais dire. Et peut-être pour... Enfin, là, je vous... Enfin, c'est retour de parole, si vous voulez. Mais pour ajouter un peu à la discussion une question que je me posais, enfin, voilà, en me disant, bah, voilà, je vais arriver ici, qu'est-ce que je pourrais leur demander ? C'était, justement, si on part du principe que le management par l'engagement, c'est un brouillard mis sur la réalité du travail, des rapports salariaux, je me demandais, vous, dans vos expériences, si vous êtes dans des organisations engagées, comment est-ce que vous faites pour réussir à dissiper ce brouillard-là ? Par quoi ça passe ? Voilà, c'est une question que je propose, mais vous pouvez intervenir dans le sens que vous voulez.
Juste, c'est pas pour répondre à ta question, mais c'était par rapport à ce que tu as dit juste avant sur se mettre en grève et prendre du recul, etc. Et partager le fait que pour beaucoup d'entre nous qui sommes à ASSO aujourd'hui, on y est aujourd'hui parce qu'on a participé il y a 3 ans aussi au mouvement social contre la réforme des retraites et qu'on a monté une dynamique d'AG entre inter-ASSO, qui était, où il y avait des membres du syndicat, mais aussi plein de personnes du secteur associatif, pas du tout syndiquées, et où c'était un moment donné où on prenait le temps de parler de qu'est-ce qui se passe dans nos structures et comment est-ce que c'est compliqué ou difficile, et fin, que ça a été quand même des moments hyper forts de se rendre, de personnes hyper isolées dans leur petit asso, hyper débordées, à pas savoir comment gérer, qui ont dit bon ben je m'arrête aujourd'hui, je vais à cet AG et j'en parle, et en fait de sentir que ça résonnait avec plein d'autres vécus dans la salle, ça fait du bien en fait. Enfin voilà, c'est juste pour rappeler ça, et que moi c'est ça qui a fait que après je me suis syndiquée aussi, je pense, c'est que ça a donné énormément d'énergie et ça redonne du sens au travail d'avoir ces espaces collectifs avec d'autres collègues du monde associatif ou de structures engagées. Enfin, en tout cas, voilà, c'était juste que, en tout cas, ça fait du bien. Voilà.
C'était similaire en fait, c'était sur l'intérêt vraiment de se retrouver entre volontaires en service civique, stagiaires, salariés d'associations ou autres structures engagées. Et alors là, c'était autour de l'inter-asso, mais simplement aussi dans un précédent travail où il y avait, on avait des revendications du coup sur. On travaillait ensemble avec Marie-Lou à un moment donné. Et du coup, dans une asso féministe, et on avait des revendications. Pardon, on avait. Ah oui, c'est mieux, Joanne, je préfère aussi moi. On avait des revendications par rapport à nos conditions de travail et pour se préparer un peu face à notre employeur qui considérait qu'il n'était pas patron, justement. De dire comment ça se passe dans les assos similaires de la même taille, avec les mêmes valeurs, et d'essayer de prendre un peu tous les avantages, entre guillemets, enfin, toutes les conditions de travail qui sont correctes ailleurs. Comment. Au niveau du salaire, au niveau de comment on gère le temps de travail, la durée aussi, les congés payés, avoir 10 semaines par exemple ou 15 semaines, avoir tel salaire. Et puis, et puis de voir aussi les revendications effectivement des syndicats ou des partis politiques féministes comme les 28 heures semaine ou 32 heures semaine, etc. Et de dire, vous, comme en tant qu'asso, vous avez ces valeurs-là, ce serait chouette de les faire appliquer. Effectivement, en interne, ce que tu disais. Et vraiment, je me rends compte aussi avec les permanences là, syndicales, c'est que du coup, on écoute et on accueille la parole des travailleurs, travailleuses qui sont du coup qui ont des problèmes et des soucis. Mais surtout, ce qui revient généralement, c'est la surcharge de travail et que l'employeur dit « Mais il faudrait peut-être que tu t'organises autrement. » Et ça, ça revient systématiquement. Et moi, alors, quand on me l'a renvoyé, à un moment donné, j'ai pu dire, tiens, c'est marrant parce que les employeurs, les patrons des assos, soit vous avez un problème au niveau du recrutement parce que vous recrutez que des personnes qui ne savent pas s'organiser, parce que ça arrive partout, ou alors c'est peut-être que le problème, il est ailleurs, justement. Et voilà, c'est l'intérêt vraiment de l'écoute et de l'entraide, quoi. Pour répondre un peu au flou, comment on pouvait faire par rapport à ce flou.
Peut-être, moi, je rajoute aussi sur ce truc-là du flou, c'est que souvent, c'est des petites structures où il n'y a pas de représentation de salariés, de CSE, d'organisation, en fait, où on peut discuter des conditions de travail avec toutes les limites que ça a, hein, bien sûr, il ne faut pas idéaliser ce genre de truc. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas d'espace, en fait, pour faire un rapport de force pour créer des espaces Déjà entre salariés et puis après entre salariés et employeurs pour dire voilà, nous entre salariés on a discuté de tout ça. Aujourd'hui c'est ça qui se passe, mais on avait fait ça une fois dans notre asso. Il y a toutes ces problématiques là et après de rapporter au CA comment on avance sur ces trucs là quoi. Je pense que déjà créer des espaces comme ça peut être une piste intéressante.
Bonsoir. Concernant les outils qu'on a mis en place, moi je suis dans une TPA, enfin une très petite association, on est trois. Bon, du coup, il n'y a pas de représentants salariés en interne, tout ça. Et juste pour témoigner sur. En fait, on savait que tout tournait pas rond dans l'asso. Enfin, c'est l'espèce de flou qui a beaucoup été mentionné. Et un jour a émergé l'idée de se créer l'espace dont on vient de parler, mais de se le créer nous-mêmes. En fait, on n'attend pas de la part de nos employeurs de nous dire quelque chose. Et voilà, très concrètement, on se fait un temps 2 heures par mois. Et c'est un temps où il n'y a pas d'ordre du jour et pas de... En fait, il n'y a rien d'écrit. Un temps dit réflexif, où chacun débarque avec son bagage et le met sur la table pendant 2 heures. L'idée, c'est aussi que ce soit un instant, un minimum convivial. Et émerge lors de ce temps, a émergé, entre autres, là, on va avoir nos entretiens annuels bientôt, la semaine prochaine. Et il a été décidé qu'on arrive ensemble pendant une demi-heure ou une heure sur des sujets qu'on a discutés ensemble au préalable, principalement sur nos conditions salariales, quoi. Et de ne pas y aller tout seul, d'avoir un temps d'abord d'une heure. Bon, c'est le genre de pratique que je pouvais donner ici. Voilà. J'ai dit.
Peut-être juste pour compléter sur ce que je disais, moi je suis syndiqué, comme je disais, dans un réseau où il y a une commission paritaire, donc on a un syndicat qui est représenté auprès de nos patrons. Et je pense qu'une des spécificités, parce que là je réfléchissais, je me disais en fait j'ai un discours vachement réformiste, ce qui est pas le cas d'habitude, mais je me disais peut-être que une des causes d'une partie de ce conflit-là, c'est aussi que, à mon avis, dans un certain nombre d'associations, il y a potentiellement un double mouvement des salariés, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui sont là depuis la création des murs, et il y en a d'autres qui sont dans un turnover très récurrent. Et pour moi, la problématique qu'il peut y avoir, enfin, typiquement nous qu'on rencontre, quand je me pose la question des minutes, c'est que, vu que ceux qui sont stables depuis longtemps, c'est eux qui sont en dialogue avec nos patrons, avec nos employeurs, c'est eux qui sont dans le syndicat, c'est eux qui gèrent en fait cette structure-là. Et du coup, je trouve que finalement, vu que les patrons de gauche laissent un vide, ils offrent une possibilité de créer des hiérarchies, souvent, enfin, dans notre cas, des hiérarchies informelles, qui sont ni citées, ni nommées, donc ni travaillées. Et du coup, on est aussi coincé dans ce truc-là, de devoir se battre contre notre patron, contre nos collègues qui usent de cette fonction-là, et potentiellement qui en plus sont partout parce qu'ils n'ont pas de fonction de direction, donc ils peuvent être très bien dans nos syndicats au même titre. Et donc je trouve que peut y avoir cette complexité-là aussi, que vu qu'on est dans de l'auto-exploitation, c'est qu'on a des collègues qui s'auto-exploitent et qui ont des discours sur le travail alors qu'on n'a pas de rapport hiérarchique, et ce qui peut pourrir l'ambiance, ce qui peut pourrir les luttes, et ce qui crée une grosse complexité, je trouve.
Pour un autre outil que du coup nous on a vu, c'est pour revenir sur ce qu'Eliott a dit tout à l'heure sur dissiper le flou, on vous invite à répondre à notre petit questionnaire action, parce que pour nous c'est un outil qui peut être hyper chouette pour démarrer des discussions avec ses collègues ou avec d'autres gens qui bossent dans des petites structures sur, en fait aussi le flou il vient qu'on ne connaît pas nos droits aussi et en fait on ne nous l'apprend pas, et donc ça permet aussi de se renseigner et de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posé et que nos patrons ne nous ont jamais posé et enfin nous ont jamais expliqué. Et du coup, c'est aussi une manière de se réapproprier nos conditions de travail. Bon, c'est un outil comme un autre, mais en tout cas, pour nous, ça peut être un support à dissiper des flous et à se poser des nouvelles questions, quoi.
Euh, Je ne sais pas si ça répond à la question de dissiper le flou, mais on a parlé d'antisyndicalisme auprès des patrons. Je pense que sans que ce soit de l'antisyndicalisme formalisé, en fait, il y a une crainte à se syndiquer auprès des salariés aussi. Et du coup, en fait, il y a le premier levier, il est là aussi. Et du coup, il y a cet outil de pouvoir en discuter. Et j'ai un collègue qui est là, mais moi, je suis arrivée dans une structure assez récemment, depuis 6 mois. Et j'avais déjà été syndiquée avant, etc. Et en fait, de façon générale, parce que j'ai bossé qu'en asso, en fait, on a vraiment des discours, même en tant que salarié, et qu'on a. Et je pense qu'il y a les spécificités des assos aussi, c'est que du coup, c'est catalogué comme espace militant, mais en fait, surtout maintenant, on n'y arrive pas tous avec un bagage militant. Et en fait, ça crée quand même des différences de vécu et d'approche de comment on travaille, comment on a envie de travailler sur différentes. Vraiment des pratiques et des réflexions qu'on n'a pas forcément de la même façon, etc. Et effectivement, de poser entre nous quand on a la possibilité de dire, mais en fait, c'est pas parce qu'on. Enfin, il y a le truc de. Il y a des gens qui ne sont pas du tout militants ou qui veulent faire juste leur taf et très bien, mais du coup, qui ne voient pas plus loin que juste leur taf et c'est plus loin. Il y a les gens qui s'auto-exploitent et du coup, il y a plein de profils différents aussi. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à nommer que, en fait, ça, c'est pas normal. On vit dans différents espaces les mêmes choses, etc. En fait, c'est juste les espaces de dialogue, qu'on soit syndiqué ou pas, il faut qu'ils existent, quoi. Et de commencer à se pencher effectivement sur nos droits, et que en fait ça existe, les accords d'association d'entreprise, ça existe, et en fait ça permet de demander aussi des choses, et je pense que de commencer effectivement par la base et comment en fait on s'auto-sensibilise sur les questions de nos droits et ce qu'on peut demander derrière, généralement les patrons, moi du coup je suis sur une structure où peut-être qu'on n'aura pas les mêmes discours avec mes collègues, mais en fait on est une structure qui pourrait être considérée comme militante, pour autant je suis pas sûre que j'ai des employeurs qui correspondent parfaitement aux employeurs de gauche. On est plutôt ni droite ni gauche, quoi. On est vraiment sur une structure qui se revendique pas comme militante, dans le sens militant politique, etc., mais qui quand même veut faire des trucs, un espèce de flou artistique aussi sur on est militant mais pas trop. Que ce soit du côté employeur et du côté salarié, en fait, faire bouger les lignes, c'est compliqué. Il y a une forme d'autocritique aussi sur comment on se place en tant que salarié dans des structures de travail, et le discours sur l'auto-exploitation, il est hyper compliqué, parce que moi je suis une structure où pour le coup on est plutôt hyper cadré, notamment sur les horaires, etc. On a une direction RH, etc. Et du coup on est toujours un peu le cul entre deux chaises, il faut faire des, est-ce qu'on fait nos heures sup ou est-ce qu'on les fait pas, est-ce qu'il faut montrer que en fait on passe du temps qui n'est pas compté, ou est-ce qu'il faut ne pas dépasser le temps, parce qu'en fait il faut qu'on respecte nos horaires et si c'est pas compté, c'est pas compté, quoi. Et en interne, c'est des discours où en fait on n'arrive pas forcément à trouver la solution, mais en tout cas avoir des espaces pour en discuter, c'est important, et donc on commence à syndiquer des gens. Et voilà.
Ce sur quoi tu viens de finir, là, le fait que du coup vous avez vraiment un cadre, mais ça vous interroge sur le fait de respecter ce cadre ou pas. Moi, ça me fait écho à un truc qui m'interroge, je pense, par ignorance sur nos droits. J'ai l'impression que dans la structure dans laquelle je suis, on a envie d'un cadre pour le respect de nos droits et pour que justement il y ait des limites, et que dans un sens on a à y gagner, et en même temps. J'ai l'impression qu'on craint collectivement, j'ai cette crainte aussi personnellement, probablement parce que j'ai pas assez de connaissances pour savoir qu'est-ce que je peux vraiment gagner en termes de bénéfices, de conditions de travail et de bien-être, et perdre dans la définition plus claire du cadre, parce que ce côté flou, on en tire aussi certains avantages dans certaines situations, et je suis bien d'accord qu'en fait ça se retourne beaucoup plus contre nous que ça nous apporte du bien-être, hein, y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, quand on se pose la question d'en arriver à définir ce cadre, vu qu'on n'est pas forcément associé à la définition du cadre, vu qu'on est en situation de subordination du fait du contrat de travail, la clarification, elle a un petit côté effrayant aussi et que je trouve dur pour en arriver à lever le flou. Bon, ça répond pas du tout à la question, mais en tout cas, c'est un truc qui me travaille et je sais pas si vous avez ce ressenti aussi ou pas.
Je vais peut-être reprendre la parole. Oui, bah oui, ce que tu soulèves, ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter, je suis d'accord, c'est ce risque-là, mais dans le fond, ce que tu penses aussi, c'est ça, c'est le côté, bah, le problème, c'est plus tellement là, du coup, le flou, le pas le flou, c'est qu'en fait, derrière, il y a une relation de subordination, quoi. Si vous pouviez choisir vous-même comment s'organise le travail, comment enfin, le définir, tout ça, il y aurait peut-être moins de peur à clarifier les choses, mais et donc le fond du problème, c'est la subordination, donc le système capitaliste derrière, bon, c'est un peu bateau comme réponse, mais... Je pense que ouais, c'est ça. Et sur ce que disait la personne juste là, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Et justement, c'est aussi un truc que, enfin, c'est aussi un élément que j'essayais de creuser et dans les suites là, de bah, quand il y a des rencontres ou quand il y a des discussions, enfin, sur ce sujet-là, de creuser aussi le côté un peu, ouais, autocritique. Alors, ok, peut-être pour une partie de, en tant que salarié de ces organisations, même si je pense qu'il y a tellement de choses à critiquer côté employeur que bon. Mais bon, autocritique, ça fait toujours bien. Mais aussi, autocritique, plus en tant que militante ou bénévole, dans nos activités, on va dire, non salariées, dans ces milieux-là. Et parce que justement, il y a ça, bah, il y avait notamment, là, je citais une personne qui parlait de martyrologie, du militantisme. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit, il n'y a pas besoin d'aller dans le travail salarié pour voir ça. Il y a quand même dans nos organisations gauche, extrême gauche ou en dehors, enfin voilà, dans ces milieux-là, une culture, voilà, de l'engagement doit être totalement dévoué, désintéressé. Je pense que si, enfin, il y a aussi des choses à creuser sur le côté de bah, un certain ethos, enfin, un attendu du militant bah, qui est bah, justement qui est un militant, donc assez viriliste. Et si on creuse encore, bah, les questions, bah voilà, de hétéronormativité, blanchité, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses que si on les creuse dans nos milieux militants avant même de parler de travail salarié dans les organisations engagées, il y a tout ça déjà détricoté et qui, justement, puisque il y a tout ce management de l'engagement, toutes ces choses qu'on ne détricote pas, qu'on ne travaille pas, se retrouvent dans les expériences bah, de travail salarié. Je ne sais pas si je suis clair. Ou justement, bah, moi, dans mon cas personnel, des choses que je voyais dans les espaces militants se reposaient dans le travail, sauf qu'en fait, bah, donc je sais que ça venait pas mal de la culture militante. Bah, je parle notamment... Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. De toute façon, c'est dans le livre. Revenait dans le cadre du travail, sauf que là il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que bah, c'est des trucs pas cool que tu vis, mais dans le cadre du taf. Du coup, bah, déjà en général, c'est pas, donc là je parlais d'homophobie, c'est des trucs qui sont pas cool, et en plus dans le cadre du travail, bah, y a un contrat de travail entre eux. Enfin bref, je vais pas ressortir tout le discours, mais donc pour aller dans le sens de la personne qui est au fond, sur ce truc de oui, il y a besoin d'un travail autocritique déjà dans nos espaces, et aussi parce que ça a une influence aussi dans le travail engagé dans tout ça, et sur le côté de ce que tu disais tout à l'heure, un peu presque genre le coming out réformiste. Moi, c'est un peu, enfin, où tu disais que ça, j'ai dit un truc un peu réformiste, mais ça m'a fait écho à ça, où à un moment, j'étais, enfin, en faisant le livre, je me disais, bon, moi, je vais faire un truc super radical, je vais cracher sur je vais critiquer le salariat et tout, je vais en mettre plein la tête au patron. Et en fait, une fois qu'on lit le livre concrètement, ça paraît être genre limite un plaidoyer pour le salariat, quoi. Et donc, ce que j'en retire de ça, c'est que du coup, bah, déjà, déception de j'ai pas fait un truc aussi radical que ça, mais que peut-être que, bon, finalement, la radicalité, c'est de, en fait, du coup, ce que j'allais dire, de, bah, en fait, on part de, dans ces organisations, on part de tellement loin en termes de conditions de travail par rapport à ce qui devait être le cadre légal, que déjà revendiquer le cadre légal, c'est déjà quelque chose de voilà, bah, presque révolutionnaire et pas si réformiste que ça, quoi. Et en plus, bon, ça c'est déjà encore à côté, mais un autre truc de cette tendance à critiquer le salariat c'est aussi le fruit de nos luttes, du coup c'est pas si réformiste que ça de défendre le salariat. Bon, ça je dis ça pour me sauver ma conscience, mais, mais ce que je voulais dire par là, c'était ça, c'était aussi ce truc de finalement comment... Bizarrement, ça paraît presque un peu paradoxal, mais comment en fait le salariat, le cadre salarial, les réflexions du salarial peuvent nous aider à questionner notre militantisme. Et ça, c'est un truc qui, moi, me paraissait pas du tout évident et un peu paradoxal, bizarre, parce qu'on a plus tendance à faire l'inverse. Ah, dans le monde militant, là, c'est super politique, on réfléchit à tout, tout est politique et on politise tout. Et le salariat, c'est mauvais. Mais comment concrètement, en fait, on voit que le fait de penser le salariat nous permet de penser qu'il y a des conditions de travail, la question du temps de travail, il y a la question de comment on répartit les tâches, il y a la question de la responsabilité de l'organisation envers chacun de ses membres. Comment est-ce que l'organisation fait en sorte que les membres ne se crament pas ? Ces réflexions-là, qui sont des obligations légales dans le cadre du salariat, ça pourrait être intéressant de les avoir aussi dans les organisations militantes, dans le cadre du travail gratuit même. Et du coup, il y a aussi un peu ce truc de... pour reprendre ce truc de autocritique et...
On s'est posé la question face à nos patrons qui se sentaient démunis. De se dire, ça serait quoi la fiche de poste d'un président d'asso ? Ce serait quoi la fiche de poste d'un trésorier d'asso ? Ce serait quoi la fiche de poste d'un membre du CA ? C'est combien de temps d'investissement ? C'est combien d'heures ? Et du coup, essayer de mettre ça bout à bout, donc on le fait plus ou moins bien. Ça leur permet de se rendre compte aussi de qu'ils ne sont pas dans les clous, qu'ils font pas 100% des tâches qu'ils avaient, de ce pourquoi ils ont été désignés. Et c'est pour ça que quand tu fais le parallèle avec l'engagement militant, c'est que eux, pour un certain nombre, pas pour tous, c'est un engagement militant d'être là. Mmh. Et moi, je vois mes patrons, ça leur fait mal au cœur de nous voir en souffrance au travail. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être ce côté-là de se former sur l'engagement et de rappeler que si vous êtes patron, c'est aussi que vous êtes... Finalement, c'est que vous avez tiré la mauvaise carte parce que vous étiez là à l'AG et qu'il n'y avait personne d'autre. Mais peut-être que on peut vous expliquer que vous avez la possibilité de vous aussi avoir une réflexion critique sur ce que vous, pourquoi vous le faites et comment vous pourriez devenir un vrai patron de gauche avoir une forme de management et du moins connaître le droit du travail. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont, à mon avis, un peu contre leur gré, qui se retrouvent à ce poste-là dans le monde asso.
Et de pousser la formalisation est tellement loin qu'on ferait même des contrats de militantisme, quoi. Pourquoi pas ? Bah oui.
Bonsoir. Donc moi, je travaille dans le spectacle vivant. J'ai l'impression, en fait, que il y a une question assez centrale, en fait, dans les structures, en fait, dans lesquelles je travaille. Je pense que ça peut s'étendre évidemment à pas mal de structures sociales, en fait, toutes les structures associatives qui ont une forme de presque de délégation de services publics. Les conditions de travail, en fait, elles sont extrêmement dépendantes aussi de la baisse de dotation. Moi, je suis souvent dans des postures de direction, en tout cas dans les structures de spectacle vivant dans lesquelles je vais, et donc confronté en fait à cette nécessité de trouver du financement pour pouvoir réaliser le projet et pour pouvoir derrière permettre des conditions de travail qui sont respectueuses du code du travail. Et donc en fait là je trouve qu'il y a un nœud, et il y a un nœud presque systémique, c'est-à-dire qu'on peut venir, moi là je viens m'attaquer à mon patron, mon dernier employeur qui finalement est un conseil d'administration complètement incompétent, et là je vous rejoins là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un manque cruel de compétences en tant qu'employeur dans la plupart des associations, peut-être parce que c'est des patrons bénévoles finalement et qui n'ont pas suivi de formation, mais aussi ils mettent leurs salariés dans des conditions d'exploitation du fait de la baisse de financement public finalement, et de leur incapacité, et de l'incapacité même des salariés à trouver suffisamment de financement. Et là, on en vient en fait à une critique finalement des régions, des départements et de l'État qui abandonnent en fait ces associations, qui abandonnent tous ces salariés. Et donc, bon, je ne sais pas si c'est une question ou pas, c'est un constat et une réflexion que je me fais, mais en fait, s'attaquer uniquement à son patron, il ne peut pas grand-chose, en fait. Enfin, il n'est pas le seul responsable, en tout cas. Même s'il est de gauche, même s'il avait voulu bien faire, en fait, je crois que sans débrayer un secteur complètement, je ne suis pas sûr que lui seul arrive à faire quelque chose. Voilà.
Bonsoir. Je voudrais rebondir là-dessus parce que je suis assez d'accord. J'ai bossé dans des associations, enfin particulièrement dans une association dite d'éducation populaire dans laquelle finalement bon, on travaille avec des enfants, etc. Plein de belles valeurs pour les enfants, pour nous, pour bon, et dans laquelle on se retrouvait un petit peu en fait à se faire exploiter, payer au lance-pierre, à faire des heures sup non payées, etc. La question que je me pose en fait, c'est de savoir, pardon, j'ai un peu du mal déjà à parler devant du monde, c'est pas facile pour moi, mais bon, pour venir au point, en fait, je me demande si on gagnerait pas dans ces associations-là à non seulement, enfin, pas à s'arrêter du coup à se battre contre nos patrons et les conseils d'administration, etc., mais pour essayer de contrecarrer un petit peu la compétition entre les assos qui finalement, enfin, se battent pour ces dotations, se retrouvent en concurrence les unes contre les autres et du coup sont amenées à, ben, à maltraiter leurs salariés, etc. Enfin, si on ne gagnerait pas à essayer aussi de créer des alliances entre assos de même secteur pour essayer de se mettre d'accord sur des conditions, enfin, je sais pas, des choses qu'on n'accepterait pas de faire ou des... dans le cas de réponse à des appels à projets. Enfin,
je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être fait aussi peut-être en parallèle, c'est-à-dire que se mettre d'accord entre associations, j'entends là salariés CA, de plein d'assos différentes pour alerter en fait les pouvoirs publics et de dire là en fait nous ce qu'on dit c'est ces fameux appels à projets là qu'on doit toujours quémander, on n'est pas, on, ça va pas du tout. Mais ça peut très bien se faire en fait en parallèle, bien sûr. Après, ce qu'on entend beaucoup des conseils d'administration, c'est par rapport à cette baisse de financement, c'est en fait on est dans le même bateau, un peu. Comme si conseil d'administration et salariés on était dans le même bateau. Bah non, parce que si moi mon travail de salarié s'arrête là, et que ton travail de bénévole de CA s'arrête, les conséquences elles seront pas les mêmes pour toi et pour moi. Donc faut qu'on je pense qu'on a arrivé à faire entendre ça aussi au conseil d'administration. Et après, bien sûr que ben, si toutes les assos, de façon générale, s'allient pour, et pas que assos d'ailleurs, mais s'allient pour aller alerter les conseils régionaux, départementaux, etc., enfin, ceux qui financent pour dire ben, là, en fait, il nous faut plus d'argent. Ben, oui, carrément. Mais il faut aussi plus d'argent pour que les assos puissent... comment rémunérer du coup les salariés de façon digne et de dire bah nous par exemple on fonctionnera pas avec des volontaires en service civique, enfin on n'a pas envie d'exploiter comme ça. Et ça c'est des positions que peuvent prendre les conseils d'administration en lien aussi avec les salariés, bien sûr.
Oui, vite fait pour alimenter un peu cette discussion, ça, je pense que ça a été une grande question qu'on s'est posée en 2019 pendant la réforme des retraites où effectivement il y avait donc des personnes qui venaient avec ce truc de dire très syndicaliste, de dire on va monter, on a envie de monter une AG des assos, inter-assos, mais uniquement avec des travailleurs travailleuses pour construire un rapport de force. Et il y avait aussi ben, des gens qui venaient avec notamment dans des très petites associations où effectivement il y a beaucoup de turnover également dans les conseils d'administration, venir avec ce truc de lions-nous, voilà, pour avoir des critiques et des revendications à hauteur des conseils départementaux, régionaux et tout. Et moi, je suis content qu'on en parle là, parce que c'est un vrai débat qu'on a eu, qui n'a pas permis d'être résolu, parce que ben, ça n'a pas été la grève générale en 2019. Hein. Mais voilà. Et juste rebondir dessus, parce que j'ai l'impression, dans la fin du bouquin qui s'appelle « Te plains pas, c'est pas l'usine » qui cause de ça, ce qu'elle met en avant, ce que je me souviens, c'est que ce qui n'est pas... ce qui n'est pas travaillé, ce qui n'est pas exploité, disons, c'est le rapport que peuvent avoir les travailleurs des associations avec les usagers, les bénéficiaires de ces mêmes associations ou de ces services, que ce soit de l'animation, de l'éducation populaire, du social, médico-social. Et que, enfin, j'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, je ne suis pas le seul à avoir lu, que c'est plutôt vers ces gens-là que cette personne propose d'aller construire des rapports de force, dans le sens où on partage davantage les conditions matérielles, où on partagerait davantage les conséquences aux baisses de financement, subventions, aux baisses de ce qui peut exister comme service social et autres dans les associations. Et c'est un truc qui n'existe pas, ou alors très peu, dans moi, ce que je connais, en tout cas, d'organisation.
Ouais. Moi, je veux bien rebondir sur un autre truc dans ce débat-là, que... oui, bien sûr, il y a l'enjeu des dotations globales des assos, mais en fait, on a le cas d'assos qui ont les mêmes budgets et en fait, c'est pas les mêmes conditions de travail. Ça, en fait, et aussi d'avoir, nous, on avait organisé dans une formation un peu, on était dans des salariés dans des secteurs un peu similaires et on comparait nos contrats de travail et en fait, on se rend compte que c'était pas pareil, les choix étaient pas faits de la même manière, etc., etc. Ça, il y a un truc à dépasser. Et après, en fait, il y a aussi quand même, et peut-être que c'est cool si vous n'avez pas vécu ce truc-là, mais il y a aussi des... Et nous, on a reçu pas mal de gens en permanence. Et moi je suis aussi conseiller du salarié, où j'accompagne les gens dans les trucs d'entretien préalable au licenciement. Il y a aussi des situations d'assos engagées où c'est hardcore, quoi. C'est vraiment de la maltraitance, du chantage au papier. Enfin, il y a vraiment plein de situations qui sont pas que des CA, qui sont plutôt bienveillants ou etc. Qui auraient, il y a plein de situations qui nous reviennent, qui sont des situations un peu plus dures. Ou pour ces personnes-là, l'objet social, parce que c'est souvent des CA où c'est des gens qui ont créé l'asso. Et en fait, cet objet social, il est au-dessus de tout. Donc, quand ils ont une personne, par exemple, qui développe un handicap, je sais pas, par exemple, en RQTH, enfin, elle est reconnue comme en handicap, elle n'arrive pas à faire son travail comme une personne qu'ils avaient avant, qui s'est cramée sur le poste, et ils disent, nous, avant, on avait une personne qui arrivait à faire ça, et là, ils ont une personne qui n'y arrive plus. Et du coup, dans leur tête, c'est, mon objet social de mon asso que j'ai créé, il marche plus. Alors qu'en fait, il y a... Il y a quand même une réflexion un peu plus détaillée à avoir sur chaque situation. Et juste un truc sur les dotations globales, je pense que ça dépend vraiment beaucoup des secteurs aussi engagés. Il y a des secteurs engagés qui peuvent être un peu plus à la mode des fois, des moments, et qui vivent moins ça, d'autres qui le vivent plus. Je ne sais pas si ça fait un lien de tous les secteurs engagés. Notamment de l'ESS. Pour moi, je suis dans l'ESS. Il y a des assos et des SCOP qui font de l'argent. Enfin, c'est pas que du social, quoi. Le secteur engagé, quoi.
Mais je sais pas à quelle heure on est censé finir, mais.
Ah, bah, vas-y. Moi, je voulais juste parler de. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose que. Moi, je fais partie de ASSO aussi. Et ça fait longtemps que je travaille dans des assos gratuitement ou de manière salariée pauvre, on va dire. Et j'ai l'impression que souvent, ça revient beaucoup, ce truc de... les employeurs, ils sont bénévoles ou ils sont salariés parce qu'ils ont des délégations d'employeurs. Et du coup, ils sont sous l'eau comme nous. Et du coup, il faut qu'on soit ensemble. Et eux aussi, ils se donnent et ils souffrent. Et j'ai l'impression que souvent, on oublie aussi ce côté pouvoir, en fait. Enfin, parce qu'en fait... On est employeur, on est patron, et du coup, on a du pouvoir sur des gens, on a du pouvoir sur une organisation, et ça nous apporte des privilèges. Enfin, et du coup, là, dans la discussion, je réfléchissais, je me disais, c'est plusieurs côtés où j'ai été. Enfin, moi, j'étais dans le CA d'une asso, et où j'ai travaillé beaucoup, beaucoup gratuitement, et où on me renvoyait aussi ça, de waouh, c'est. Tu donnes, c'est déjà hyper bien ce que tu fais ou ce que vous faites, tout ça. Et je me dis, mais en fait, on avait du pouvoir aussi. Enfin, et ça, quand on est salarié d'une asso. Avec un CA gentil, enfin moi souvent c'est ce que j'entends, mais au CA ils sont gentils, quelle que soit la définition de gentil qu'on met derrière, mais ils sont gentils parce qu'ils donnent de leur temps gratuitement pour que mon travail existe, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça derrière, on oublie aussi tout le pouvoir, et pas que symbolique, que les personnes employeuses et patronnes ont aussi. Enfin, est-ce que ça leur apporte, enfin, en termes de privilèges. Et moi, j'ai pas envie d'oublier ça, même si je n'ai pas envie d'oublier que c'est des personnes qui donnent leur temps bénévolement. Mais je me dis, faut pas qu'on oublie ça aussi. Enfin, ces personnes-là, en fait, elles peuvent démissionner aussi du jour au lendemain. Et comme tu disais, Dorian, c'est pas du tout les mêmes conséquences sur leur vie que quand on est salarié, même si ça a aussi des conséquences et c'est pas forcément toujours simple à gérer. Mais bon, je me suis perdue. Voilà. Mais voilà.
Qu'est-ce qu'on en pense Mais peut-être tu veux conclure, Arthur. Et puis je vous propose ensuite de discuter peut-être de manière plus informelle pendant qu'on va arranger tranquillement la salle. Mais je ne sais pas si tu veux dire le mot de la fin.
Non, je n'avais pas trop prévu de conclusion.
Non.
J'avais fait une introduction bien chronométrée, tout ça, mais j'avoue que je n'ai pas fait trop de conclusion. Non, mais en plus, voilà. Plus sur le moment de discussion, j'ai noté plein de trucs, j'ai trouvé ça super intéressant. Aussi bien un peu les pistes de. Un peu les pistes que certaines d'entre vous ont trouvées pour sortir de l'enfumage, du brouillage, du brouillard. Et là, les dernières interventions, je repars avec plein de réflexions intéressantes. Donc merci. Voilà.
Merci. Bonne soirée.
C'était Rencontre avec Arthur Bromoreau autour de son livre Le syndrome du patron de gauche, paru aux éditions Hors d'atteinte.
Radio Livre.